est blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Erwan.
Bonjour Thomas, bonjour Olivier.
Salut Erwan et Thomas.
On va découvrir aujourd'hui comment deux frères ont conquis le monde du cyber. Je crois même qu'on va parler de secrets d'État, pas que. Mais en tout cas d'un très beau parcours entrepreneurial. Et pour vous parler d'Erwan Kerodi, notre invité, la main est à Olivier.
Erwan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast 40 nuances de Next qui explore les différents possibles dans le futur, les 40 possibles de futur. Donc Cybel Angel, c'est le nom de cette start-up devenue scale-up. Donc on est dans le domaine de la cybersécurité. On a déjà reçu non pas des concurrents, mais des gens qui sont dans cet univers de la cybersécurité. On va voir que finalement c'est assez vaste et vous avez un champ d'expertise qui est relativement différent de ceux qu'on a pu recevoir, qui était plutôt autour de l'emailing, enfin et des questions de sécurité autour des messageries.
Avec Veil notamment.
Oui, absolument. Alors je crois que vous avez levé 33 millions d'euros, alors peut-être on parlait en dollars de 36 millions de dollars juste avant le confinement, au début de l'année 2020, je crois que tu me l'as confirmé quand on en parlait avant de commencer. Donc 47 millions d'euros en tout, levés par Cybel Angel. La société a été créée en 2013, si je ne m'abuse, et donc vous développez une solution logicielle qui est à destination des entreprises, donc on parle de B2B, avec la promesse de les avertir si des documents sensibles peuvent les concerner et seraient exposés, disponibles sur Internet. Il y a beaucoup plus de documents que ce qu'on croit qui peuvent être disponibles à la portée de tous, ou en tout cas principalement des gens qui peuvent avoir un peu de compétences informatiques, donc des fuites de sécurité potentielles. Et très souvent, c'est la négligence, on en parlera, et donc c'est largement sous-estimé par les grands groupes. Vous avez un modèle d'abonnement, hein, je crois que c'est relativement cher hein, de profiter des services de Cybel Angel. Alors, moi, j'avais vu de 40 000 à 500 000 euros l'abonnement par an.
Ça a augmenté même. La fourchette droite, ça a augmenté.
Ouais. C'est l'inflation, mon bon monsieur. Ça a eu payé.
Non, bien sûr. Ce qu'on ramène vaut cher aussi.
Bien sûr, je parlais du prix, mais pas de la valeur. La valeur est excellente et on va en parler. Je crois que
beaucoup
des grands groupes français, notamment du CAC 40, sont clients.
Plus de la moitié.
Alors, sans doute, dans les questions de cybersécurité, vous ne pouvez pas forcément dévoiler vos clients, mais j'en avais vu quelques-uns qui étaient cités, comme Capgemini. Je ne me rappelle plus exactement tous lesquels. Enfin, je ne voulais pas non plus commettre d'impair.
Capgemini, il y en a
beaucoup.
Plus d'un sur deux. Donc,
Je ne sais pas combien vous êtes, parce que j'avais vu au moment où vous faisiez la levée de fonds, mais c'était il y a 2 ans.
Là, on est à peu près 180, 175.
D'accord. Je crois que vous étiez un peu moins de 150 à l'époque. Vous avez notamment bien développé les États-Unis. C'était aussi ce qui était le sous-jacent de la thèse hein, de l'investissement à ce moment-là. Et donc, en plus, je crois que le modèle américain, puisqu'il y a toute une question et des débats autour du traitement des données, hein, puisque en France et en Europe, on a cette régulation qu'on appelle la RGPD, GDPR. Et au départ, le traitement des données était un peu plus laxiste, c'est le bon mot, mais aux États-Unis. Et puis, peu à peu, je crois que la réglementation américaine se rapproche un peu des normes européennes.
Ils sont complètement inspirés des normes européennes.
Voilà. Et donc, du coup, je pense que venant du marché européen, vous avez l'expertise et l'avance hein, en termes de traitement des données, alors que probablement vos concurrents américains, c'est un marché beaucoup plus concurrentiel, étaient forcément pas forcément disons, préparés à des réglementations qui peuvent créer des freins au développement quand on n'est pas prêt, pas compliant comme on dit. Donc voilà, véritable enjeu pour vous de à la fois de sécurité et de respect des données. Donc on va être ravis d'écouter cette aventure assez incroyable.
Et justement, pour un gros flashback entrepreneurial, on t'a demandé de choisir une musique pour nous compter les débuts de cette aventure. Il était une fois deux frères, il était une fois 5 heures du matin, Paris s'éveille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Et là on se dit encore un entrepreneur parisien, Onex 40, on en a marre, on peut créer de partout, en province et au-delà. Et en fait justement,
l'histoire n'a rien à voir avec le parisiano-parisianisme. J'ai monté Cybel Angel de façon complètement délocalisée. J'étais en Inde à cette époque-là, j'étais à Mumbai, ça faisait 3 ans que j'habitais à Mumbai. J'ai monté Cybel Angel avec mon frère. Qui était chercheur en intelligence artificielle à l'université d'Helsinki en Finlande, et le troisième larron était chercheur en cryptographie à Berkeley, donc vers San Francisco. Et effectivement, quand on allait faire nos premières, on s'est dit on va quand même monter une société. Il faut monter une société là où on a nos bases, là où on a nos réflexes, là où c'est déjà dur de monter une société, donc on va peut-être pas se mettre toutes les problématiques en même temps. Donc on dit on va faire notre base, la France Paris, et en fait quand tu prends l'avion Mumbai Paris ou Helsinki Paris, tu te retrouves à 5h du matin la tête enfarinée à Paris et tu te dis ben allez, on va essayer de conquérir le monde de la cybersécurité. Donc il y a 5h Paris, voilà.
Le point de départ, c'était de se dire on va révolutionner ce monde, où ça s'est forgé au fil de l'eau, au fil des problématiques peut-être des clients et des capacités de l'équipe.
Alors il y a un petit côté, il y a toujours le petit côté poétique de l'entrepreneur avec sa vision, tout ça. En fait, moi je suis plutôt un analytique. Et
pas de poésie,
pas de storytelling.
Des faits.
C'est peut-être un conseil que je pourrais donner pour les entrepreneurs, c'est de la même manière que quand j'ai choisi mon premier job, c'était dans la finance, c'était choisi ce secteur-là. Quand j'ai décidé de monter une société, j'ai regardé, il y a des bons produits, il y a des bonnes équipes, il y a un bon marché. En fait, qu'est-ce qui est le plus important entre l'équipe, le marché, le produit? Et ben en fait, pour moi, c'est le marché. Parce que tu peux être bon dans un marché tout pourri, et ben en vrai, tu seras toujours que moyen globalement. Donc pour moi c'est super important effectivement de faire une analyse un peu stratégique sur quel va être le problème pour les 10, 15, 20 prochaines années dans le monde. Et ensuite tu regardes effectivement les solutions qui existent et là où tu pourras apporter ta pierre à l'édifice. Je trouve ça très...
Donc quand tu parles du marché, tu parles de la taille du marché, du coup, de sa profondeur
Globalement, la cybersécurité, pour moi, était le problème qui allait être un problème sur les 15-20 prochaines années pour n'importe qui, du très grand groupe à la Michu, avec un niveau d'armement académique, intellectuel et connaissances très faible, parce que c'est un marché qui débutait quand j'étais en 2013. Et du coup, ben, on s'est dit que comme c'est un marché qui va être un problème pour tout le monde, que le niveau de maturité est relativement faible, et on l'a vu dans les sociétés, en fait, et d'ailleurs on le voit tout au quotidien, hein, les hackers ils ont bien compris ça, il a fallu s'éduquer. Parce que nous, moi je venais de la finance, mon frère était intelligent chercheur, et donc on s'est fait les confs de hackers. Et donc je m'habillais en sweat et capuche et j'allais à Las Vegas en plein mois d'août, là où il fait 50 degrés, là où il y a DEFCON.
Avec un masque d'Anonymous.
Avec pas un masque d'Anonymous, mais par exemple à DEFCON, si vous voulez une histoire rigolote, il y a tous les hackers de la planète qui se retrouvent, et elle est bons comme les méchants. Et il y a un jeu qui s'appelle Spot the Fed, c'est-à-dire trouver le gars du FBI qui est là pour choper le hacker mafieux qui vient ici aussi pour apprendre, quoi, comme tout le monde. Et donc moi j'allais là-bas un petit peu sorti de la finance, hein, le mec pas très dégrossi, quoi. Et dans un milieu où les mecs ils ont tous des crêtes, il y a un concours de crêtes d'ailleurs si ça vous intéresse, de crêtes de cheveux. Il y a des concours de lockpicking pour ouvrir il y a des tas de trucs, vous pouvez amener vos enfants de 5 ans ou 7 ans pour qu'on leur apprenne à crocheter les serrures. Non, c'est vraiment fun comme truc, hein, je vous conseille. Bon, il faut juste 50 degrés, c'est en plein mois d'août à Las Vegas, le goudron fond, hein. Et on a appris plein de trucs, et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi là-dedans? Quand tu vas aux conférences très institutionnelles de cyber, RSA ou Black Hat, t'as toutes les boîtes qui te disent, vous avez les boîtes de cyber, on est les meilleurs, vous allez voir, il vous arrivera rien. Et en plus de ça, on résout tout le problème, on va protéger l'intérieur de votre périmètre.
On est les plus forts.
On est les plus forts, et l'intérieur du périmètre, personne jamais rentrera chez vous. Et quand tu écoutes les conférences de hackers, les hackers, ils passent leur temps à aller chercher de l'info à l'extérieur du périmètre. Pour rentrer, mais par l'extérieur. Il cherche la fenêtre, il cherche pas à protéger la porte.
Il cherche les failles, etc.
Ouais. Et on s'est dit, mais il y a un trou béant. C'est-à-dire que entre ce que propose l'industrie pour protéger les entreprises et comment les hackers font pour trouver les trous, les failles, il y a un trou béant. Donc, ben, on y va. Et alors, comment tu résous ce problème-là ? Tu as deux solutions. Soit tu vas chercher un cloud ouvert, tu vas chercher un serveur ouvert qui potentiellement pourrait appartenir à l'entreprise cliente. Soit tu as une autre approche un peu plus bestiale, on va dire. Que, c'est mon frère qui a eu l'idée. Il me dit, ben, on va scanner Internet. Mais on va scanner littéralement l'infrastructure d'Internet. Et on a été capable de créer un scanner qui scanne toute l'infrastructure d'Internet tous les jours 24 heures.
Ça veut dire quoi pour des béotiens
par rapport à ce que fait un Google, un crawler de Google, quelle est la différence ?
Google, lui, va scanner des pages web qui sont hébergées sur des serveurs. Un serveur peut héberger des dizaines, des centaines, des millions de pages web. Nous, on va scanner le serveur. On ne va pas essayer de chercher comme Google la page web, on va essayer de chercher le serveur. Donc en fait, on va trouver tous les serveurs ouverts sur la planète, les clouds, même les serveurs... Et on en trouve des millions. Par construction, en fait, un serveur a une adresse, qu'on appelle une adresse IP. Il y en a par construction 4,3 milliards de puissance 22 dans le monde. Et on scanne tous ces serveurs-là en 24 heures. Et on recommence. Donc n'importe quoi.
Et donc quand vous les scannez, vous analysez quoi leur répertorie, enfin tout ce qui est répertorié.
Il y a des fichiers qui ressortent, ouais.
Voilà. Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce qu'il répond? Est-ce que l'adresse répond? Alors les adresses IP, c'est un des trucs. Maintenant, on a fait d'autres périmètres. Il y a les noms de domaine, il y a les DNS, les requêtes DNS, enfin des trucs un peu marrants qui te permettent de trouver des trucs beaucoup plus pointus d'ailleurs maintenant. Mais effectivement, on va voir si le serveur existe, s'il y a un serveur qui est ouvert, et si oui, de quoi il est constitué. De toute façon, quand tu demandes à un serveur qui l'est, répond. Voilà, et donc comme ça on arrive à savoir,
ben, t'as
un serveur où, t'as un serveur
poliment.
Alors mais même mieux que ça, maintenant si tu t'achètes un cloud Amazon, par défaut il est ouvert. Alors ça tu le sais pas forcément, parce qu'il faut aller chercher dans les détails, mais quand t'achètes un AWS Bucket, par défaut il n'y a pas de login, pas de password, donc tout ce que tu vas mettre dessus sera ouvert à tout vent. C'est le genre
quand tu achètes l'espace, on ne te fournit pas la clé automatiquement?
Elle est fournie, mais dans les options, parce que la sécurité rajoute une complexité en termes du UI, donc d'expérience utilisateur, et donc il faut aller voir, il faut passer un peu de temps pour regarder, cocher les bonnes cases et mettre un mot de passe, et par défaut ils sont ouverts. Mais ça, et donc du coup tu veux dire attends, pas à moi, ça arrive à des providers téléphoniques à travers le monde, hein. On a trouvé la base de données du plus gros provider téléphonique chinois, comme ça.
D'accord.
Eh bien, tu parlais des concurrents en disant, j'étais à cette conférence, tout le monde fait les gros bras, et juste avant qu'on démarre cet échange, je te disais, je projetais pas, en découvrant le nom de la marque, ce que vous faisiez. Ça, vous auriez pu vous appeler Cyber Angels, et c'est Cyber Angels, donc je te demandais pourquoi, est-ce que c'est une faute de frappe, pour pas se faire hacker peut-être, et en fait, c'est pas tout à fait ça.
Non. Cybèle, Cybèle, donc Cybèle, c'est la gardienne des clés et du savoir dans la mythologie grecque. Et en fait, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on projette on protège les clés et le savoir des grands groupes à travers la planète. Et Angel, parce que on a été assez surpris en arrivant de voir tous ces gens qui toutes ces entreprises qui se présentaient comme tu me payes et il t'arrivera jamais rien, tu vas voir. Je suis Rambo, je suis macho. Et alors nous, on était nouveaux dans ce milieu-là, on a appris, et donc on s'est bien rendu compte qu'en fait, si des hackers ont du temps et de l'argent, ils t'auront. À partir du moment où ils arrivent à avoir je pourrais raconter l'histoire du directeur de la CIA qui a réussi à se faire avoir. Donc même
on aime bien les histoires avec Olivier. Ouais.
Même si j'ai plein de questions du coup. Mais
même si le directeur de la CIA arrive à se faire avoir, tu peux te dire que n'importe qui peut se faire avoir. Donc à un moment, ayons un peu d'humilité, et on voulait pas se présenter comme un bouclier infranchissable. On est un petit ange gardien. On aide les entreprises à mieux vivre plus longtemps dans un cadre plus respectueux de leur vie privée. Et c'est leur vie privée, ça leur appartient. Mais par contre, si quelqu'un veut effectivement attaquer n'importe qui, n'importe quand, s'ils ont du temps et de l'argent, ils y arriveront. Mais donc, du coup, on a mis cette petite nuance.
Tu parlais de ces grands acteurs de l'industrie qui parfois se font hacker. À ce propos, on a une question d'un de nos partenaires, Laurent Garec, je te propose d'écouter. Et j'espère que tu auras une réponse pour lui. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Erwan. Vous qui vous définissez comme le shérif de l'Internet, quel conseil pourriez-vous donner à une entreprise, et plus particulièrement à une banque, pour se prémunir des attaques cyber? Et quelle est aujourd'hui la clé pour y échapper? Merci.
Alors je rappelle que Laurent Garret, c'est le patron de Neuflys EBC pour la France.
Neuflis OBC, donc qui fait de la banque privée. Donc en fait, ils ont des.
Ils essaient d'avoir des conseils un peu gratuits, donc fais attention.
Ils ont des choses importantes à protéger.
On l'a compris, Erwan coûte cher.
Les clients, tu vois, la propriété intellectuelle, la base de données clients, s'ils se font, par exemple, voler de l'information, une banque, ils vont se faire casser tout ce qui est. Des breaches réglementaires bancaires, ça peut leur coûter très cher. S'ils sont cotés, ça leur coûte encore plus cher. S'il y a des emails et des mots de passe, ça va leur coûter un breach GDPR, donc en français on dit RGPD.
Ouais.
Ça peut te coûter 5 à 6% de ton revenu mondial. Donc je comprends que...
La question soit posée.
La question soit posée. Et donc la réponse, ça dépend, ça dépend de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une petite société, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent, conseil à deux balles, mettez du two-factor authentication, des systèmes comme ça, ça augmente très très vite la complexité pour un hacker de pénétrer vos serveurs.
Two-factor
authentification.
Deux facteurs d'authentification, c'est plus clair.
Deux portes d'entrée, si tu veux.
Voilà, c'est ça. Alors, ça coûte rien, mais par contre, ça augmente de loin votre maturité. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Mais est-ce que tu veux... Pardon, je te laisse finir.
Mais pour les grands groupes, en revanche, plus un grand groupe, plus par construction, n'importe quelle société va perdre de la donnée par construction. Parce que vous allez
parce qu'elle grandit,
parce qu'elle va grandir, parce que tu connais pas tes prestataires, tu connais pas tes employés, ton employé va ramener du travail à la maison.
Donc ça démultiplie les failles, les portes d'entrée, les portes mal fermées.
Et ça, on est capable de le, on est bien placé pour savoir que n'importe quelle société va aujourd'hui transpirer de l'information par négligence. C'est même pas de leur faute. Et là, je te parle de groupes. Parmi mes clients, j'ai des sociétés qui sont les plus puissantes dans le monde. Aux États-Unis, tu peux imaginer, un grand cloud provider, par exemple. Mmh. Ils ont du temps, de l'argent. Et malgré tout, on trouve les plans de leur data center en Pologne, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont architectes qui vont faire fuiter tous les plans avec les axes de vidéosurveillance. Ces boîtes-là ont des avocats, tu vois, qui vont perdre le contrat de la prochaine acquisition à plusieurs milliards. Donc voilà, des points d'entrée comme ça.
Et est-ce que du coup, parce que là on parle par exemple, Neuflis OBC te pose la question, c'est une banque, donc il y a des données financières évidemment ultra sensibles. Mais bon, en gros, dans toutes les industries, il y a des données sensibles. Pour simplifier, je me suis toujours demandé, on a déjà posé la question, quand tu veux commercialiser, est-ce que tu dis que tu es l'ange gardien, mais est-ce que vous avez des techniques aussi pour faire peur du coup à vos clients, c'est-à-dire leur montrer leurs failles, et est-ce que alors je spoil un peu un truc qui nous a beaucoup amusé, qui nous a raconté que vous avez recruté aussi un ancien du FBI. Mais avant d'en venir à ça, tu disais que tu étais à Las Vegas avec les hackers. Est-ce que ça, c'est des gens que toi, tu peux aussi recruter et qui vont avoir une démarche, non pas, évidemment, faire de la R&D, améliorer vos systèmes, mais aussi pour aller chercher les failles chez des potentiels clients ?
Donc, on est purement une solution défensive. On va recruter des gens qui ont des compétences en cyber. On vérifie leur pédigré. Parce que dans ce milieu-là, peut y avoir de tout. Il y a certaines personnes que l'on n'a pas prises, certaines personnes que l'on a prises en connaissance de cause, en ayant fait des recherches un peu plus poussées, mais en ayant un contrat moral et puis technique très précis sur ce qu'ils avaient le droit de faire et pas le droit de faire.
Globalement, dans l'entreprise et en dehors.
Tout à fait.
Dans leur vie privée.
Dans
leur loisir.
On revenait, pas typiquement avec le patron de Veid, on avait ces sujets dans les contrats sur ce qui dépassait même l'activité au sein de l'entreprise.
Exactement. Ouais. Moi, les premières embauches, quand c'est moi qui les faisais, je disais, écoute, on trouve des centaines de milliers de cartes bancaires volées. C'est très clair que ces cartes bancaires sont là pour être amenées à leurs propriétaires, aux clients, à nos clients. Jamais faudra envisager d'utiliser cette carte bancaire pour faire quoi que ce soit de personnel. Sinon, tu sors de l'entreprise et tu iras en prison. Et le contrat, il est clair au moins. On s'est dit les choses et on est tous d'accord. Voilà. Mais ça fait partie des choses. Ensuite,
la prison de Long Island.
Utiliser de la donnée pour aller faire peur aux clients. Alors ça, je l'ai essayé une fois. On m'a menacé d'appeler la police. J'ai compris que dans ce milieu-là, c'était pas forcément quelque chose qui était très accepté. Et donc c'est pas une façon.
Quand tu me vois appuyer, c'est que je la garde en quote ou en extract potentiel. Je trouve ça génial.
Mais comme tous les parrains de la mafia, tu peux continuer à diriger ton entreprise du fond de la prison.
Et donc
avec
du coup,
j'ai de sécurité dans le système informatique.
J'ai vite compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et donc qu'il fallait construire une marque, dire qu'on savait faire les choses, et en cours de la discussion. et donc présenter des cas d'autres concurrents, mais de façon anonymisée, par exemple. Ça donne, ça explique, voilà. Et là, en cours de la discussion, l'entreprise va vous demander, mais du coup, vous sauriez faire quoi pour moi? Est-ce que vous seriez capable de trouver des informations qui fuitent là, maintenant?
Bon, on en a déjà.
Eh ben, on répond pas à ça. On dit répond, oui, on peut regarder. Et puis, on sait déjà qu'on peut avoir énormément d'informations.
On peut regarder. Bah, ah bah, ça y est, j'ai regardé. J'ai trouvé.
Mais techniquement, tu me donnes le nom de n'importe quel grand groupe dans le monde. On a de la donnée confidentielle qui, aujourd'hui, est exposée. Par construction. Et c'est même pas de leur faute.
Tout à l'heure, Olivier le disait... Cette levée de fonds, il y avait une thèse, c'était de partir aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu nous l'expliquais très bien, quand vous arrivez dans un pays, vous n'avez qu'un peu d'informations. Et tout ça, vous nous amenez, mais je vais te laisser raconter l'histoire jusqu'au recrutement du numéro 2 du FBI à Chicago.
Exactement. Donc en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on vend dans un nouveau pays et qu'on commence à faire du bruit avec les grands groupes du CAC 40, voilà, locaux, les CAC 40 locaux, on peut être amené à amener de l'information au pays en disant « voilà les exemples de choses qu'on est capable de trouver, on vient en ami, on vient en paix, on est là du bon côté de la barrière pour protéger les grands groupes ». Parce que comme tu le disais Olivier, la frontière elle est fine entre l'agresseur et oui ou non quoi. Donc non, on veut bien se positionner comme défenseur. Et donc du coup, aux États-Unis, je suis passé par l'ambassade de France en disant bah, « j'aimerais parler au FBI ». Ils m'ont dit « ah bon, pourquoi ?» Je dis « on a trouvé des infos, j'aimerais bien en discuter avec eux ». Et ils ont organisé ce truc-là à l'ambassade de France à Washington. Et j'ai montré les informations National Security au FBI à Washington. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 4 jours de suite, ils m'ont fait revenir. Ils me faisaient remontrer les mêmes données à des panels de gens plus en plus importants. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et le quatrième jour, la veille où je devais partir en France, retourner en France, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit « Bonjour, je m'appelle Howard et je suis le numéro 1 cyber au FBI. Vous êtes bien Juan ?» Je fais « Ben ouais, de notre côté, il a mon numéro de téléphone. Je pense que je suis toute ma vie, ce monsieur. » Et il me dit « Je vais vous rencontrer parce que mes équipes me parlent de vous. » Donc j'ai dit « Ben, si vous voulez. » Mais alors, moi, le problème, c'est que moi, demain, 14h, mon avion part. Il me dit « Non, mais il faut que je vous voie. Donc, ben, écoutez, on se voit demain matin, 8h. » Je fais « Vous savez que c'est férié ?» Il fait « Ouais, c'est bon, demain matin, 8h. OK. » Donc, il me dit « Vous pouvez pas venir chez moi parce qu'au FBI, ça va être compliqué, les accréditations et tout. On se voit à l'ambassade. » Le plus compliqué a été de faire rouvrir l'ambassade un jour férié à 8h du matin. Et au final, ils ont accepté. On s'est rencontrés. Il m'a dit « Mais écoutez, les gars, j'entends beaucoup parler de vous. Les infos que vous montez sont dingues. Et on n'a pas ces capacités aux États-Unis. »
C'était quoi? C'était secret défense
C'était des informations sur... Donc on était en 2017, là, et c'était des informations... 18, ouais. C'était des informations sur les plans antiterroristes dans les aéroports américains.
Pas une petite info.
Et les rotations de tous les Sky Marshals, donc les agents, les policiers...
Qui sont dans les avions. Les frontières,
voilà, enfin. Qui sont dans les avions et qui sont armés dans les avions.
Ah oui.
Et donc on avait...
Ça, tu le vois que dans les films. Hein,
Exactement.
T'es pas censé le voir, enfin, oui. Sauf Erwan.
on avait les avions, les horaires, la place de la personne dans l'avion, sa date de naissance, je me souviens, son prénom, son nom, le type d'arme qu'il avait et le nombre de munitions qu'il avait. Enfin, c'était fou. Et donc, le gars du FBI nous dit, bah, tu vois, par exemple, ça, on n'a pas le droit d'amener des armes dans un avion, mais moi, un terroriste rentre dans l'avion, il sait qui tuer, descendre. Récupérer leur arme et il a une arme dans un avion. Mmh. Donc ce scénario-là, moi je n'y avais pas pensé parce que je ne suis pas du FBI. Mmh. Les gars m'expliquaient ce type d'information et honnêtement la façon dont on les retrouve. Donc on l'a expliqué comment on les retrouvait et cette façon-là, nous on ne sait pas faire. Et donc il nous a dit ben, écoutez, welcome aux États-Unis. Et de fil en aiguille, ben, Howard, qui était quand même quelqu'un d'important et que moi j'étais à peu près personne, ben, je fais mon travail, je vais le revoir une deuxième fois, une troisième fois. Ça commence par une bière, ça finit par une pizza, ouhou, voilà. Et de fil en aiguille,
jusqu'au donut,
je pensais que ça commençait par la pizza et ça finissait par la bière.
Et au final, on a sympathisé et je vais le voir. Je suis à un moment, Howard, j'aimerais recruter des personnes aux États-Unis. Est-ce que tu as des personnes à me suggérer? Et il me dit, bah, ça tombe très bien, c'est un peu un mouvement qui est en train de se passer au FBI. En fait, Trump était en train de décapiter toute la partie cyber du FBI suite aux affaires Conway et tout ça. Et il me dit, bah, il y a toute une génération de gens qui est en train de se faire sortir. Et il me dit, j'ai deux noms à te donner. Il m'a donné deux noms, je les ai rappelés. Et l'un des deux noms, c'est Todd Carroll, qui est aujourd'hui le responsable Cyber Operations de Cybele Angel au COMEX de Cybele. Et il est donc à Chicago.
Donc tu arrives aux États-Unis, tu cherches
l'ancien numéro 2 du FBI à Chicago.
Des secrets nationaux, quand tu es arrivé dans ce studio, est-ce que tu as des infos sur Olivier ou moi ?
Je ne serais pas permis de le faire. Mais si jamais vous, si un jour vous me perdez votre mot de passe, vous me demandez.
Ça fera rire beaucoup de mes associés, cette gestion des mots de passe. Bref.
Et du coup, quand vous signez un contrat avec un grand groupe, c'est donc là le client, en général, c'est la direction informatique, ouais. C'est ça
c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le CISO, donc Chief Information Security Officer. En français, on dit responsable de sécurité des systèmes d'information, RSSI. Et ce qui dépend en général du CIO, donc du Chief,
Chief Information Officer. Voilà, et lui-même dépend du CIO. Mais du coup, forcément, j'imagine que s'il y a un contrat, ça ne peut être qu'au niveau de l'entreprise complète. Tu ne peux pas imaginer que tu as un petit contrat ou un truc, etc.
Ouais, parce
que
c'est une analyse très fine d'un entrepreneur, je vois bien, c'est exactement ça. Ouais, tu peux pas. Du coup, l'upsell par entité est plus difficile à faire parce que tu travailles niveau groupe. Donc je suis d'accord, 100% d'accord avec toi. On protège aujourd'hui des groupes, et leurs filiales, mais du coup, tous leurs employés, toutes leurs infrastructures, toutes leurs marques.
Et du coup, quand tu projettes le développement de Cyber Angel, c'est plus de clients, de nouveaux pays, ou quand même, il y a peut-être des extensions, des nouveaux services qui sont déjà envisagés, qui peuvent être de l'upsell demain pour ces grands groupes.
Alors, niveau géographique, on est passé, on a débuté en France, on s'est très vite élargi sur l'Allemagne, avec un succès inespéré et rapide. Et on s'entend très bien avec nos amis et partenaires allemands. On a essayé de faire la même chose en Angleterre. On s'est gaufré lamentablement. On a essayé pendant 5 ans, avec tous les ans une méthode différente, et ça n'a jamais marché. Tu vois, comme
la méthode commerciale, parce que la solution tech, oui, c'est la même.
Comme quoi, en fait, la même méthode, le même menu dans un pays ne marche pas forcément dans l'autre. Et du coup, les États-Unis, il a fallu que j'y aille, moi, de toute façon, parce que c'était des investissements importants. Et puis, c'était, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée d'amener un des fondateurs pour ouvrir un pays comme les États-Unis, notamment pour avoir l'autorité. Enfin, pour avoir la finesse de compréhension de comment pitcher la solution différente d'un pays à l'autre et de voir que en fait ça marche pas pareil et qu'il faut changer le pitch, et d'avoir l'autorité pour revenir en interne au bercail pour dire maintenant on va changer le marketing, au moins pour ce pays-là.
Et est-ce que la stratégie commerciale d'un Cyber Angel, enfin sans révéler de choses confidentielles, mais est-ce que c'est plutôt une sorte de capillarité à l'intérieur? Par exemple, je vais prendre au hasard, admettons que vous ayez Walmart comme client pour prendre les États-Unis. Walmart a des clients, des fournisseurs, des partenaires, des logiciels de caisse, des ERP, etc. Donc, est-ce que après, si on signe, par exemple, un retailer, est-ce que vous allez fonctionner ensuite par une sorte de capillarité, parce qu'il y a forcément des transferts d'informations qui sont liés à des questions de sécurité, etc. Ou alors, est-ce que c'est plutôt, par exemple, dans un secteur, à partir du moment où vous êtes connu dans un secteur, vous allez aussi voir les concurrents qui se disent je vais avoir le même niveau, etc.
C'est un peu de tout ça. La capillarité donneur d'ordre fournisseur fonctionne aux États-Unis particulièrement bien, notamment en Europe un peu moins, j'ai du mal à expliquer d'ailleurs, mais beaucoup de deals l'année dernière, notamment dans la pharma par exemple, ont été faits parce que après la pharma c'était un peu sensible, je ne sais pas si vous souvenez l'année dernière et l'année d'avant. on a des beaux pharmaciens comme clients, et effectivement eux ils nous ont fait des beaux contrats parce que ils risquent de le donneur d'ordre n'est pas content et le prestataire risque de perdre son gros client. Donc ça fait des deals assez rapides.
Ils se tiennent par la barbichette.
Exactement. Et ça va assez vite. En revanche, donc c'est nos cycles de vente les plus courts quand ça marche. Ils se connaissent tous dans ce milieu. Les CISO, en fait, entre eux, surtout de taille équivalente, des boîtes de taille équivalente, se connaissent parce qu'il y a un partage d'informations qui est élevé. Et donc, du coup, le referral fonctionne très, très bien. Aussi. Et ils se connaissent donc pour les sociétés de même taille horizontalement, mais verticalement par secteur, ils se connaissent aussi des grosses avec les petits. Et donc ils partagent les bons tuyaux, et les bons tuyaux, c'est des bons fournisseurs comme Cybelle qui va les protéger. Et donc ça fonctionne bien. Le referral pour nous est quelque chose d'assez puissant.
Parfait.
On va te proposer d'évoquer plein de premières fois, plein de réflexions entrepreneuriales sur ta vie d'entrepreneur et la vie de Cyber Angels. Premier apprentissage important.
Parce que des claques, en fait, on en prend tout le temps. Les apprentissages, on fait qu'apprendre.
C'était au CE1. Hein.
On fait qu'apprendre. Non, mais en vrai, en fait, je viens de la finance. Ouais, ça, c'est un vrai apprentissage, ça. Je viens de la finance. J'en avais marre d'avoir des idées pour moi-même, des idées pour mon boss, des idées pour mon entreprise, et j'ai l'impression qu'elles étaient assez mal utilisées. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais monter une boîte dans un secteur qui n'a rien à voir, et je vais y arriver en apprenant de toute pièce. Et je me suis mis à apprendre, au sens primaire du terme, à aller dans les conférences à travers le monde pour apprendre des trucs. Et j'ai maintenant, humblement, mais on a un peu une référence en cyber en Europe et maintenant aux États-Unis, et je suis capable de parler avec des patrons de cyber, de grands groupes, ou même du FBI, ici, dans ce domaine-là, en partant de rien, sachant qu'il y a 9 ans, je ne sais pas ce qu'était la cyber, en fait. Donc en vrai, quand on me dit ouais mais je sais pas le faire, tu sais quoi, aujourd'hui tout est disponible sur internet, tout est disponible dans des conférences, penchons-nous sur le sujet, on va apprendre. Voilà.
La première fois que tu t'es fait hacker toi-même, il va me dire jamais.
Eh ben tu sais quoi, c'est une bonne question, je me suis jamais posé, mais je me suis jamais fait choper des virus. Par contre, j'ai passé du temps à enlever des virus de l'ordinateur de mes parents. Et ben je me suis jamais fait
alors, par fichier, contre, en tout cas en le sachant.
Oui, tout à fait en sachant. Par contre, Cybel Angel est son propre client, et on sait qu'effectivement il y a des gens qui ont essayé des choses comme ça, mais bon, on est notre propre client, quoi.
Et j'imagine que tu as déjà essayé d'hacker quelqu'un ou quelque chose.
Ouais, c'était fait partie des apprentissages. En fait, quand tu commences et que tu commences à donc tu vas dans les conférences de hackers et tu vois comment ils font et tu te dis mais ça peut pas être aussi simple. Du coup, tu essayes de reproduire par toi-même. Et je me souviens que j'avais retenté un truc. Je n'ai pas dit au FBI. Mais
attention, scoop. Est-ce qu'il y a prescription? Parce que je ne veux pas que tu finisses en prison.
Non, mais j'ai la vidéo en plus.
Je
vous jure, j'ai la vidéo parce qu'en fait, mon frère ne me croyait pas, donc je lui ai montré. Moi, je l'ai enregistré le truc. J'ai accédé un grand nombre de radars automatiques sur le bord de la route aux États-Unis qui flashent automatiquement les voitures et qui notamment... font une détection automatique de la plaque d'immatriculation, font de l'OCR la plaque d'immatriculation. Et en fait, tu as la vidéo où tu vois les voitures passer et tu vois reconnaissance de la plaque. Voilà. Et je me dis, c'est pas possible, ça, c'est moi qui vais.
Et tu pouvais décider de flasher des voitures qui n'étaient pas en excès?
Non, mais dans un autre truc que tu pouvais.
Parce qu'ils flashent toutes les voitures, y compris celles qui sont pas en excès de vitesse.
Tout est vu.
Ils peuvent revoir.
Du coup, tu vois l'intérieur.
Ils peuvent reconstituer entièrement ton parcours, avec qui tu étais, etc.
Alors, tu vois le logiciel, comment il fonctionne. Et effectivement, tout est filmé, tout est OCRisé, mais le truc est relevé à l'agent. Uniquement si la vitesse a été dépassée. Voilà. Mais techniquement, tout est enregistré, oui. Et sinon, le deuxième truc, c'était des systèmes de smart grid, ces systèmes de gestion de l'électricité dans les villes.
Oui.
Et tu te dis, mais c'est pas possible que les mecs arrivent à rentrer. Donc du coup, j'ai regardé, effectivement, tu pouvais rentrer. Mais alors, c'est sans login, sans mot de passe, sans rien, en fait. Hein, c'est ridicule. Hein. Et pareil pour les caméras automatiques. Les mecs se sont dit, en fait, c'est tellement caché au fin fond d'Internet que jamais personne ne le trouvera. Et du coup,
si tu cherches, tu trouves.
Si tu cherches, tu trouves, et tu vois qu'il y avait un système pour gérer l'électricité, et il y a un bouton on-off. Voilà, donc tu peux éteindre. Alors, je l'ai pas touché, mais je me dis, tu peux éteindre la ville, l'électricité d'une ville, quoi.
Ah ben ça, pour les économies d'énergie et la transition carbone, tu pourrais éteindre toutes les vitrines et par exemple Times Square. C'est ce que je me suis dit la dernière fois à New York. Mais ils ont pas encore compris qu'il fallait être un peu sobre.
Il faut pas se tromper de bouton parce que c'était un hôpital. C'est d'autres incidences.
Pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, Olivier, il y a certains qui ont massifié, qui ont passé à l'échelle cette logique-là et qui ont pré-infecté en fait tous les systèmes de smart grid à travers le monde pour essayer de certains pays pour être capable de dire bah tiens, si j'ai besoin, je peux éteindre l'électricité d'un pays ou d'une ville quand je veux.
Ça peut être du terrorisme informatique, juste pour créer de la terreur ou créer de la panique et ça. Ouais.
Exactement, ça peut être soit de l'espionnage, soit du terrorisme, ça dépend de quel côté tu te mets, mais voilà.
C'est ce qu'ils font dans Ocean Eleven, ils ont trouvé un système pour éteindre le casino.
Mais ça, aujourd'hui, c'est prouvé, en fait. Dans les fuites de Snowden, par exemple, il y a un des outils de la NSA, donc, qui s'appelle Hacienda, qui fait ça.
D'accord.
Premier renoncement.
Se dire qu'on était bon. Parce qu'en fait, moi, dans mon ancien métier, j'étais super expert. J'étais dans la finance, trader, j'ai un produit hyper pointu. Donc en vrai, t'es à la pointe de ce truc-là. En fait, quand tu deviens entrepreneur, tu deviens nul partout. Et donc tu renonces à être bon. Et tu par contre, tu te dis qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir apprendre surtout. Ah, c'est une belle leçon d'humilité, l'entrepreneuriat, je peux te dire. C'est vraiment une belle claque. Mais d'un autre côté, je préfère ma vie maintenant que ma vie d'avant. Parce que c'est beaucoup plus... j'ai l'impression d'être beaucoup plus clairvoyant sur mes propres limites.
Les premiers échecs en termes de recrutement.
Oh, c'est marrant, c'est en lien avec ma première claque. Tu penses recruter au début en fait ce que j'ai beaucoup évolué dans ma conception du recrutement et des relations aux collaborateurs. En fait, au début, t'es tout petit, quand t'es mono-entrepreneur, nouvel entrepreneur, primo-entrepreneur, t'as aucune expérience dans le recrutement et tu penses que tu recrutes des personnes qui vont être avec toi pour toute la vie. Et tu projettes un peu tes espoirs dans ces personnes-là. Énorme erreur. En fait, c'est pas une famille, c'est une équipe. Et en fait, tu construis une équipe. Et donc, ça ne m'a pas pris longtemps, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu fais des erreurs assez rapidement. Et les premières, justement, personnes où tu as fait des erreurs et que tu dois leur demander de partir, c'est presque des drames émotionnels, ça ne devrait pas l'être. Et ça, c'est un gros apprentissage.
Tu parlais de trahison ressentie.
Ouais, c'est ça. Sur la première personne qui te quitte aussi, professionnellement.
C'est vrai.
Une personne qui est overperformer
chez
toi.
J'ai ressenti ça, effectivement. Tu as un sentiment de trahison de te faire quitter, effectivement, comme on dirait dans un couple, dans l'amitié, mais effectivement, c'est un problème affectif qui n'a pas lieu d'être, parce que ça doit être c'est un contrat économique.
Enfin, après, c'est pas toi, c'est moi.
C'est exactement c'est ça. Donc, la première personne que j'avais, qui était une overperformer, ravie de bosser avec elle, cette personne, qui est une jeune demoiselle, d'ailleurs, toujours très brillante, et on avait mis plein d'espoir en elle, on l'avait formée, surformée, on avait investi énormément en elle. Elle a fait des choses géniales pour nous, et à un moment, alors qu'on continuait d'augmenter son salaire et tout ça, elle a essayé de partir. Et c'est un sentiment de trahison. Est un apprentissage parce que ça ne doit pas avoir lieu. Encore une fois, c'est pas émotionnel, on est là pour construire une équipe.
C'est un projet.
Voilà, c'est une équipe avec la différence entre une famille et une équipe. Ta famille, tu la choisis pas pour le bon, pour le meilleur ou pour le pire. Une équipe, l'objectif, c'est d'avoir une direction, qu'on aille tous dans la même direction. Et s'il y a des gens qui ralentissent l'équipe, eh ben, faut qu'on se le dise en âme et conscience que peut-être on doit la changer.
Bon, on reviendra dans la seconde partie, je pense plutôt, si Olivier est d'accord, mais sur le fait que vous soyez deux frangins, cofondateurs de cette boîte. Peut-être premier gros doute entrepreneurial. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, en fait, là, on va peut-être dans le mur à un mois, deux mois, trois mois? Parce qu'aujourd'hui, on voit les réussites, on voit le Next 40, les levées de fonds, les valos, etc.
Alors, sur l'aspect financier, nous, on a toujours été très précautionneux. Donc, on a eu énormément de renouées tout le temps. On nous l'a reproché souvent. En disant vous avez trop de cash en banque parce qu'à un moment il faut accélérer les gars, il faut aller encore plus vite, du cash que vous avez en banque c'est peut-être du cash que vous n'avez pas cramé pour grossir encore
poussé
plus.
Par les investisseurs ou
les investisseurs.
Bon, maintenant on change un peu de discours
et nous avec mon frère on a toujours été hyper précautionneux quoi. Donc voilà mais
vous êtes auvergnat?
Non, ben non, on est niçois.
Très bien.
Toi aussi.
Comment?
C'est Aix, le camp.
Ah oui, moi je suis. Oui, The Camp, c'est Aix. Ouais, absolument.
La question, c'était est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, là, on est peut-être à 2-3 mois de.
Alors, le pivot, notamment, le premier pivot. Tu vois, quand tu construis une première logique, on est arrivé avec une première proposition de valeur. Par rapport. En fait, on a scanné Internet, on a trouvé une montagne d'informations. Et on a commencé à prendre un type d'information et à le ramener au client. En l'occurrence, c'était les cartes bancaires. On dit, tiens, on va ramener aux banques. Et en fait, on se rend compte que ça a un intérêt, mais ils ne sont pas prêts à payer le montant qu'on pensait qu'ils étaient prêts à payer. Et on s'est dit, mince, là, en fait, on n'a pas le bon produit. Et on a dit, il faut pivoter. Il faut retourner voir on retourne à la mine, on retourne la montagne d'informations. Qu'est-ce qui pourrait avoir encore plus de valeur? Et on a retrouvé les documents confidentiels. Et là, mais entre les deux, en fait, tu te prends un gros doute en te disant, en fait, j'ai monté un truc qui fonctionne pas. Mais non, en fait, si ça fonctionne, il faut y adjoindre une autre valeur supplémentaire. Et là, ça marche.
Justement, alors je sors des premières fois, mais dans cette montagne de data, tout est automatisé pour être traité par des algos et j'imagine une intelligence artificielle où il y a beaucoup d'humains quand même pour comment dans cette montagne de tout. On est capable de s'en ressortir une image, de savoir que c'est les plans.
C'est surtout finalement, même plus largement, ouais. Je dirais que c'est une bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est quelque chose de sensible.
Et ouais. Qui a de la valeur.
Enfin, ah bah ça, c'est toute la force de Cybelle, hein, parce qu'en vrai, sinon, t'es assis sur un.
Il retire la veste, là, parce que c'est... ça devient chaud, là, les questions.
On le cuisine. Hein.
Non, mais c'est bien, mais
c'est un exercice FBI.
C'est si t'es assis sur un tas d'informations.
Couche-toi, Kérodi.
Si t'es assis sur un tas d'informations mais t'arrives pas à en ressortir l'aiguille de la botte de foin, en fait c'est pas une botte de foin, c'est un tas de purins que t'as. Et en fait, en vrai, toute la force est de trouver l'aiguille. Voilà. Et donc la force de Cybelle, c'est d'avoir créé des algorithmes d'intelligence artificielle. Après, bon, je triche. Hein. Mon frère, c'était un chercheur en intelligence artificielle, donc
il y avait un petit peu de matière.
Ouais, c'est ça. Moi, dans le business, je comprenais la valeur qu'on pouvait amener aux clients.
Qu'est-ce qu'il a fait comme étude pour
Il a fait Central et ensuite il a fait l'université d'Helsinki en reconnaissance de patterns vocaux, speech recognition.
D'accord. Donc
dans le labo de speech recognition au labo d'Helsinki. Et donc en fait au début il a créé le scanner. Et alors je vais vous révéler un secret. La première façon de gérer ces données, c'est tout simplement un fichier Excel. Et donc j'étais ce truc là tous les jours, je me levais le matin, je l'ai encore, je l'ai gardé, ce qui était magique, fichier Excel avec la donnée qui s'empilait durant la nuit, et moi je triais ligne à ligne en disant oh ça peut être intéressant, ça peut être intéressant.
Et c'était quoi les data qu'il y avait dedans? Là, on a une infocarte bancaire.
Voilà, c'est ça. Ou tiens, ça, c'est un email d'un CEO d'une boîte du CAC 40, il y a un truc. Enfin, voilà. Mais bon, fallait trouver ça. C'est moi qui me tapais la botte de foin, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'une semaine, Excel plante. Parce qu'en fait, au bout d'un certain nombre de lignes, Excel, ça n'en casse plus. On l'a mis sur un fichier texte. C'est encore moins simple à gérer. Et en fait, de fil en aiguille, on a bien vu que ça marchait pas. Hein, et donc, Stéphane s'est mis à créer des algos pour trier et filtrer ça automatiquement sur la base de ce que j'avais déjà filtré, moi. Et en fait, c'est là toute la force.
C'est la reproduction vraiment.
C'est la reproduction de l'être humain, de l'œil de l'être humain. Ensuite, les premières embauches qu'on a faites, c'était pas des développeurs informatiques, c'était des analystes qui faisaient ce filtrage.
Et en fait, c'était les. Et après, tu apprends à l'IA à adopter les mêmes réflexes.
C'était les prémices de l'IA, c'est-à-dire c'est supervisé, ces algorithmes d'intelligence artificielle supervisés. Tu prends des êtres humains, rien ne battra le cerveau de l'être humain sur notre activité. Hein. Et donc, du coup, l'être humain va filtrer de l'information. On accumule un volume d'informations de vrais positifs, on accumule un stock de faux positifs, on donne tout ça à manger à la machine qui va faire le tri. Et de fil en aiguille, en fait, la force de Cybelle, c'est d'avoir enregistré à l'Internet pendant 9 ans et du coup d'être capable d'avoir filtré ça pendant 9 ans entre du vrai et du faux positif et d'avoir des algos qui sont hyper pointus. Aujourd'hui, nos algos, donc au début c'était moi, hein, et maintenant c'est 99,5% qui sont filtrés par les machines. Il nous reste, et l'humain, effectivement, fait le last mile, parce qu'il y a quand même des complexités qui sont quasiment...
L'être humain, il continue de... Pardon, c'est ma voix de... L'être humain, il continue de regarder uniquement ce qui n'est pas détectable par la machine, ou il repasse également sur les faux positifs, parce que c'est un vrai sujet, ça peut évoluer.
C'est une très bonne question, c'est double, hein. C'est une bonne question simple et une réponse plus compliquée, mais voilà.
C'est souvent le cas.
Ouais. Nos analystes ne traitent que les doutes de la machine, c'est-à-dire à partir d'un niveau de qualification, la machine a un doute, elle te le balance comme vrai positif, donc là l'analyste va regarder les vrais positifs. Mais pour être, si tu fais que ça, ça c'est un principe d'intelligence artificielle, si tu ne fais que ça et que ton algo devient fou, tu le verras pas. Et donc on fait ce qu'on appelle du bait, c'est-à-dire qu'on fait un filet de repêchage, on prend un pourcentage des trucs qui sont des faux positifs et on le donne à manger aux analystes pour être sûr que, enfin, on le donne à filtrer aux analystes, pardon, pour être sûr que effectivement la machine ne s'est trompée.
Ouais.
Et si elle se trompe, hop, dans ce cas-là, nos ingénieurs en intelligence artificielle, parce que maintenant on en a une dizaine, une quinzaine, vont revoir là où ça a merdé dans l'algo.
C'est marrant, il y a quelques années, pour m'expliquer l'intelligence artificielle, puisque j'ai pas de background technique, on m'avait dit un truc très simple, qui est de dire, si effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a rien qui peut aller plus vite que l'être humain dans certaines situations. C'est que quand tu montres à un nouveau-né, en fait, un chat, et juste après, tu montres une image de chat, il reconnaît le chat tout de suite. Alors que pour faire reconnaître une image de chat parmi plein d'images à une machine, il faut lui en faire manger plein. Parce qu'il va confondre au débat un chat, un tigre, un chien, etc. Et puis au bout d'un moment, effectivement, il devient il devient imbattable en tant que machine learning, enfin l'algorithme, mais c'est intéressant comme, juste comme idée pour les béotiens.
Et de là savoir si quand il ouvre la boîte, le chat est vivant ou mort, ça c'est encore un autre sujet.
Voilà, c'est à l'odeur ça.
On fait prendre une nouvelle casquette à Erwan ou t'as encore quelques petites questions?
Allez.
Parce que c'est notre projet.
Merci Raphaël d'avoir changé le jingle. Je ne sais plus à qui on avait promis qu'on le changerait, mais c'est le cas.
Depuis le début, on a la voix de Macron, mais à chaque fois, ça évolue avec le temps, les discours de Macron, etc. Mais la question, c'est voilà, si toi...
Qu'est-ce qu'on fera dans 4 ans? Je ne sais pas.
Ah ben, ça sera sans doute plus Macron, a priori. Hein, ça, c'est normalement sur le plan constitutionnel, a priori. Est-ce que, en dehors de hacker l'Élysée et le gouvernement, si tu étais président, est-ce que tu aurais des mesures qui te semblent complètement évidentes, aberrante, encore plus peut-être toi qui as cette expérience aussi du marché américain, des choses que tu vois et qu'il faudrait améliorer en France?
T'as deux choses qui sont très tactiques, parce que là tu me dis de me mettre dans la peau d'un président, donc c'est après je peux faire des grandes tirades sur il faut faire la paix dans le monde, mais ça va pas être très loin quoi. Donc là c'est un peu plus tactique.
Des choses applicables.
Ouais, demain, je pense qu'arrêter cette espèce d'hypocrisie sur le chômage, l'assurance chômage est aujourd'hui le premier vici en France. Et en fait, en vrai, mon frère a pris, avoir un an de salaire payé par l'assurance chômage pour pouvoir, pendant un an, lancer ta boîte.
Ou deux, parfois.
Ou deux, ouais, c'est vraiment un peu plus. Je pense que c'est une très bonne utilisation de l'argent public, mais qu'on se le dise, qu'on mette pas sur ça, sur le mot chômage, parce qu'en fait, à ce moment-là, on n'est pas chômeur, on est créateur d'entreprise. Et je trouve que ça, c'est un truc qui, en termes d'affichage, même pour un gouvernement et tout, ça a un coût.
Et quelle serait la mesure du coup, en dehors du fait de le reconnaître,
c'est-à-dire d'avoir
un statut d'entrepreneur,
un statut de, en fait, des aides à la création d'entreprise pendant, avec un salaire minimum qui peut être indexé sur le salaire que tu avais un peu avant, qui peut être 70%,
comme le chômage,
voilà, comme le chômage vraiment de ton salaire avant, mais avec une vraie vocation, création d'entreprise. Mais du coup, faut vraiment faire, faut montrer pas de blanche, c'est-à-dire faut vraiment avoir déposé des statuts, montrer qu'on a essayé de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui pour le coup est vachement plus mesurable presque qu'une recherche d'emploi. Et c'est très simple parce qu'au final, ce qui va en rester, c'est comme tout funnel commercial, hein, tu vas en avoir 10, 15, 20% qui vont peut-être arriver jusqu'au bout et faire une boîte qui va largement repayer leur salaire, qui va créer des emplois.
Et créer des emplois.
Et qui vont, donc, du coup, tous ces emplois vont payer des impôts qui vont largement compenser cette mesure. Donc,
et qui vont embaucher des chômeurs non créateurs d'entreprises.
Exactement. Et la deuxième truc qu'on pourrait faire assez... là, pour le coup, c'est le choc des cultures avec les US. C'est que moi, mes équipes américaines... la moitié de mon comité de direction, c'est des femmes. Et c'est aussi... La moitié de mon comité de direction, c'est les Américains et Américaines. Et ce qu'ils ne comprennent pas, et que je ne suis pas capable de leur expliquer d'ailleurs, hein, même en l'expliquant, c'est comment, quand on embauche quelqu'un, la personne ne va arriver que 3 mois plus tard. Mais c'est juste... ils nous prennent pour des fous. Hein. Et de la même manière... Quand on a décidé de se séparer de quelqu'un collectivement, pourquoi on inflige à cette personne et la personne, enfin soi-disant de rester 3 mois en période de préavis et tout ça, alors que parfois on est tous d'accord d'arrêter les dégâts, quoi. Et ça peut mettre une situation un peu bizarre dans l'entreprise et tout. Et ça, quand on est aux États-Unis et qu'on voit en fait la flexibilité à laquelle ils sont capables d'embaucher. C'est vrai que ça étonne un peu en France. Après, ça a peut-être passé pour le gros libéral, voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue culturel, on se rend compte que ça fonctionne aux États-Unis assez bien et ça donne une flexibilité à l'embauche très forte.
Eh ben, on passe de la France aux États-Unis. I have a dream.
Ça nous projette dans l'avenir, c'est 40 nuances de Next, I have a dream. Est-ce que, quelle est ta projection aujourd'hui des avenirs possibles, du monde, du futur, ce que tu souhaites ou comment tu vois les choses? Alors, tu as une position assez technologique, évidemment, par la direction et de ton statut de chef d'entreprise dans le domaine de la cybersécurité. Mais est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir et quel est le monde, peut-être effrayant ou peut-être plus positif, que tu vois?
Utopique ou dystopique?
Il y en a deux, il y en a un sur la cyber et un sur les qualités des genres. Je vais faire dans l'ordre. La cyber, en fait, ce qu'on est en train de constater, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous m'arrêtez si ça ne vous intéresse pas, mais on a eu une phase de mondialisation pendant 40-70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est en train de se rendre compte que depuis 10 ans, on revient dans une re-régionalisation très puissante, très forte. Et il y a aujourd'hui, si on fait un peu de géopolitique de la cyber, le bloc US, le bloc Chine, le bloc Russie et le bloc Europe. Tout le monde essaye de trouver sa place, tout le monde meilleur ami, meilleur ennemi, bien connaît bien ton ami, connaît bien ton ennemi. Est-ce que l'Europe et les États-Unis sont amis, sont ennemis? Quelle est la limite? Aujourd'hui, est-ce que pareil, même question entre la Russie et la Chine? C'est pas très clair. On connaît l'agressivité des différents blocs. À quel point, par exemple, les Russes sont tout à fait capables de dire j'ai tout pété, alors que les Chinois font pareil, mais ne le disent pas. Mais en étant tout aussi agressif. Bref, c'est un monde où moi, avec les petites histoires mises bout à bout que je constate au quotidien, j'essaye de comprendre les grands mouvements de la grande vraie histoire, et je me dis qu'on le veuille ou non, on va se re-régionaliser. Et re-régionaliser,
ça veut dire des guerres.
C'est-à-dire déjà réimporter les compétences. Tu vois, quand on voit le président de la République qui dit on va ouvrir une usine, on va faire réouvrir des mines. On va réimporter des capacités à développer des microchips, donc des processeurs ou des capacités pour les processeurs ou des choses comme ça, en France ou en Europe. Ça veut bien dire qu'on se prépare à ne plus pouvoir travailler avec les Chinois sur ce truc-là. Et dans une logique de qu'est-ce qui se passe si demain la Chine envahit Taïwan, quoi.
Je crois qu'il y a une double logique à cette localisation. Il y en a une. Des enseignements du Covid, évidemment, de
la souveraineté,
la souveraineté finalement au sens géostratégique, de ne pas être dépendant de matières premières, de savoir-faire, de composants électroniques, etc. Et puis après, il y a en plus la logique un peu de bilan carbone et de relocalisation.
Et d'emploi, bien sûr.
Et se dire que du coup, peut-être qu'on va devoir payer plus cher pour avoir certains produits, mais on paye en fait l'assurance qu'on sera fourni tout le temps, même en cas de situation tendue.
Et du coup, pour rester dans ce que tu observes, on est compétitif, on est fort en Europe.
Le président Macron veut 25 licornes en 2025, maintenant c'est passé 30 je crois, mais voilà. Et dans la cyber, il en voulait 3 en 2025. Aujourd'hui, vous avez rencontré Evadé.
Oui.
Vous rencontrez Cybel Angel.
Et Georges Letizier, oui.
Voilà, et Georges Letizier, on n'est pas nombreux. Donc en cyber aujourd'hui...
Il y a un troisième potentiel là qui arrive.
Il y en a deux qui poussent au portillon, qui sont Tetris et Gatewatcher, qui sont des boîtes qui grossissent bien et on verra ce que ça va donner. Mais potentiellement, on est entre aujourd'hui deux du Next 40, potentiellement quatre, mais on est relativement peu en fait. Donc, alors que c'est hyper stratégique. Donc c'est à ce jour, on essaye de justement d'en discuter avec le gouvernement ça sur comment promouvoir l'écosystème et créer un écosystème un peu à la Silicon Valley dans la cyber quoi. Et en fait, ça se crée pas en un temps, ça se crée pas en un claquement de doigts, ça ne se décrète pas non plus. Alors ça, il y a eu toute l'histoire dans le passé avec les Dailymotion et les compagnies où en fait tu ne décrètes pas d'avoir un champion mondial.
Voilà. Et est-ce que dans ton marché à toi, c'est en partie lié aussi à l'accès au marché public, ou c'est pas un problème? Parce qu'on dit beaucoup que dans le domaine de la sécurité, donc du coup parfois lié à la défense, sécurité intérieure et défense extérieure, etc., le marché américain est plus dynamique parce que acheteur aussi des solutions de logiciels, et on dit beaucoup d'Israël évidemment, où la cybersécurité a été poussée par l'armée, la situation disons de tension.
Moi, sur la France, j'ai fait mon deuil des marchés publics assez vite. En vrai... J'y suis pas arrivé, ça marche pas, il n'y a pas de réactivité, je sais pas, c'est un problème de la source du problème. J'ai des idées, mais pas forcément les partager là. Aux États-Unis, ils sont...
Comme quoi, t'as pas complètement fait le deuil.
Non, il y a des trucs qui peuvent rester dans le secret des affaires. Et accessoirement, aux États-Unis, ils sont extrêmement promoteurs de ce genre de choses. Donc il y a le SMB Act, où ils vont acheter du américain. Moi, un de mes concurrents est passé de 50 millions de revenus à 100 millions de revenus parce qu'il a eu un deal de 50 millions avec le DOD, quoi, Department of Defense. Qu'est-ce que vient de faire le DOD en faisant ça? Il vient de se créer une licorne. Voilà. Nous, on n'a pas cette arme-là en France. C'est pas grave, hein. on fait autrement. Mais on a, voilà, j'ai la France et l'Allemagne. Pour moi, ma planche de salut, ça n'a pas été de me dire « Ah, je ne peux pas travailler avec l'État français, mais je peux travailler avec des sociétés allemandes qui sont un très gros tissu économique, qui m'a permis d'avoir un premier marché régional significatif. » Je pense que si tu crées une boîte de cible, après c'est des stratégies, je ne veux pas donner des leçons, hein. Mais dans mon domaine à moi, qui est un domaine où je trouve des informations sur toutes les boîtes de la planète, ça aurait été dommage de me dire je vais faire qu'une boîte qui va cibler la France et le système français, parce que je me prive potentiellement de marchés beaucoup plus gros comme les États-Unis. Donc faire une boîte en cyber en se disant je vais vendre principalement à la France, ben c'est un voilà, potentiel, on laisse de côté une total addressable market qui pourrait être beaucoup plus grand.
Et du coup, il y a des concurrents sur avec la même approche que la vôtre ?
Alors, c'est effectivement un autre bienfait d'aller se frotter aux Américains très vite, c'est que tu n'es plus dans un bocal à poisson rouge, tu es dans un bocal à requin avec des dents bien affûtées parce qu'ils ont beaucoup de cash. Ils vont très vite, ils courent très vite. Et donc, du coup, il faut être capable de... Enfin, du coup, tu fais un torture test très violent sur ton produit et sur ta proposition de valeur. Parce que tu vois que les gros Américains avec beaucoup d'argent, eh ben ils font les trucs différemment, ils se vendent mieux, même si le produit est même un peu pourri. Donc tu apprends du marketing, tu apprends du produit, tu apprends un peu de tout, mais tu apprends. Et rester que dans un écosystème microcosme où tu te bacs avec des seconds couteaux, t'apprends moins vite. Et donc pour répondre à ta question, oui, mais tous mes concurrents, j'ai deux, trois concurrents qui sont tous Américains. Pas d'Israéliens, parce que les Israéliens, pour en revenir à la question d'avant, ils sortent tous de l'armée hein, quand ils montent des boîtes en cyber. Ils montent tous leurs boîtes en Israël pour le marché israélien, mais très vite, il faut qu'ils aillent aux US. Parce que c'est un marché microscopique, Israël. Ouais. Voilà. Donc, ils vont tout de suite aux États-Unis.
Et du coup, comme on parlait des marchés publics, etc., c'était les grands clients potentiels américains... peuvent privilégier une solution comme Cyber Angels plutôt que les pendants américains.
Alors, moi, je ne bosse pas avec le public, même aux États-Unis. En revanche, aux États-Unis, quand je suis arrivé, pour être honnête, je ne savais pas si je n'allais pas me retrouver face à un espèce de chauvinisme local ou un patriotisme local. Et en fait, pas du tout. Dans le privé, c'est la valeur avant tout. Tu es israélien, tu es allemand, tu es américain. Montre-moi ce que tu as dans le bide. Je t'accorde 30 minutes, pas plus. Tu montres ce que tu as dans le bide et ensuite on voit si on passe une heure ensemble. Mais ils sont extrêmement focalisés sur la valeur. Si tu es capable de démontrer en très peu de temps, donc c'est pour ça que dans le pitch, il faut commencer par la valeur en fait, avant de parler
donc
de la
technologie. Le resto, c'est pour moi avec vos données carte bancaire.
Alors aux États-Unis, tu vas pas trop au resto parce que c'est pas une logique de relationnel, c'est une logique de transactionnel. Et donc il faut que tu leur montres la valeur avant tout. C'est très français aux Français d'aller faire du business au resto. Et d'ailleurs, quand tu leur proposes d'aller au resto, ils disent mais j'ai déjà mangé.
Quand Olivier évoquait ce monde d'après, utopique, dystopique, tu parlais de deux manières de répondre à cette question. Une vision très cyber, qui est liée à ton business, et une autre
Beaucoup plus sociétale. En fait, moi, j'ai une petite marotte perso, c'est l'égalité homme-femme. Et donc, promouvoir les talents. Et alors, ça, on pourrait le dire que c'est un peu une utopie. En fait, c'est très rationnel économique. C'est-à-dire que... pour revenir un petit peu aux racines du truc, moi j'étais en Inde. Pays qui est extrêmement dur avec les femmes. Juste pour vous donner l'espérance de vie est à moins de 5 ans et 30% plus faible pour les femmes que pour les garçons. Potentiellement, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous avez un garçon et une fille, vous avez plutôt avoir tendance à ne
nourrir
le garçon, éduquer le garçon et pas trop la fille. Donc c'est un truc. Donc moi j'étais trader là-bas et le week-end, donc j'allais dans les slums, donc
les bidonvilles.
Les bidonvilles, merci. Pour aller apprendre l'anglais et les maths à des petites filles et des petits garçons, parce que c'est comme ça que ça en sort, en fait. C'est l'anglais et les maths. Savoir compter, savoir parler anglais. Et ça m'a vachement sensibilisé à cette inégalité homme-femme, en me disant, c'est pas normal que des petites filles...
Et dès le départ, quoi.
Dès le départ, voilà. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, parce que j'étais un peu économiste, hein, en tant trader, tu te dis, si on part du principe qu'il y a, on va dire, dans la tech, 25% de femmes, si tu le passes à 50%, tu doubles ton potentiel de talent d'un coup, côté féminin. Donc en fait, économiquement, tu rajoutes une valeur inouïe. On se bat tous pour avoir des super talents. Alors qu'en fait, il y a une poche de talent qui est encore inexploitée, c'est ce volume de femmes. Donc en fait, pour moi, création de valeur à court terme, parce que ça se fait en 5 ans, je pense, hein, voilà. Mais ça commence à partir de la première, seconde première, quoi, et jusqu'à les premiers jobs, donc on va dire 5 ans, 6 ans. Et ben, pour moi, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est critique dans les années qui viennent pour notre secteur qu'est la tech, où on est particulièrement inégalitaire. Et j'ai tiré cette logique-là de quand je faisais une analyse en Inde pour connaître les pays qui allaient sortir économiquement, être plus dynamiques économiquement à court terme. Et j'avais fait une analyse et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était le niveau d'éducation des femmes. Au Laos, au Cambodge, au Vietnam, qui était, voilà, ou par exemple en Inde, c'est au Kerala, au sud, où du coup, c'est l'état de l'Inde qui est le plus éduqué pour les femmes et qui est un indicateur extrêmement avancé de dynamisme économique 5 à 6 ans plus tard.
Mais en tous les cas, ce sujet-là, même si indépendamment de promouvoir de manière angélique la diversité ou l'équilibre homme-femme, le gender balance, comme on dit, comme on est dans des marchés où il y a une pénurie de talents, c'est effectivement assez rationnel de dire qu'on a tout intérêt aussi à former des minorités ethniques, étrangères, d'autres issues de milieux plus défavorisés, parce que globalement, c'est dans ces milieux-là qu'il y a le plus de chômage, et c'est plutôt dans des métiers comme les tiens, hein, où il y a aussi besoin de ressources, et a priori, les gens ne sont pas plus bêtes, mais il faut leur donner accès aux formations, et typiquement, les femmes, hélas, en France, sont moins dans les métiers techniques. Dès les classes préparatoires, etc. J'ai vu pas mal d'études, effectivement, aux États-Unis, il y a cette réflexion qui est de comment est-ce qu'on neutralise l'effet ou le biais culturel qui est juste de penser ou de faire perdre confiance aux femmes et qui, du coup, vont moins vers ces filières technologiques aussi, ce qui est aberrant.
Et que ça a un impact, a priori, sur les produits. J'étais une asso, l'Impact, qui expliquait que, par exemple, la clim était pensée au départ par des hommes, donc réglée sur les besoins physiques ou physiologiques des hommes, les airbags dans les voitures, pareil, réglés pour des mannequins hommes. Et du coup, si tout est conçu par des hommes, les produits servent les hommes avant tout.
Et ça, on se le dit effectivement pour le policier qui a son gilet pare-balles pour homme, mais à un moment, t'es une femme, donc c'était pas conçu de la même manière. Ça marche pareil, c'est un monde d'hommes fait par les hommes pour les hommes. Dans les comics, c'est pareil. La façon de communiquer, la façon de promouvoir, la façon de promouvoir notamment, et c'est intéressant ça. Pas la même, il faut le repenser, et c'est pas simple, parce que malheureusement, moi je le vois avec mes yeux d'homme, donc j'essaie de m'entourer de femmes, pour me dire qu'on fait différemment, mais les promotions, par exemple, c'est un sujet tarte à la crème, on en a passé 100 000 fois, mais quand tu proposes une promotion entre une femme et un homme, c'est pas la même réaction. Et il faut le comprendre, et l'homme va te dire, mais bien entendu, je coche toutes les cases alors qu'il en coche 6 sur 10, là où la femme va dire ah non, je peux pas prendre le job là, c'est trop compliqué, je coche pas les 4 cases quoi. Mais non, mais tu sais que ton collègue là à côté, alors lui, il me parle déjà du prochain job. Donc attention, on va se poser 2 minutes et on va rediscuter ensemble, toi et moi, de.
C'est quoi vraiment les cases ?
Ouais. Et ça, c'est spécifiquement français par rapport à ta. Le fait que tu as une vraie expérience américaine. Est-ce que la relation de la femme au travail et de l'entreprise sur la femme, enfin le regard de l'entreprise sur la femme, fait que c'est différent ou pas en termes d'estime de soi, de confiance de soi de... Parce qu'on a un peu l'idée de l'executive woman américaine qui a peut-être moins de complexe.
C'est une très bonne question. J'aurais envie de te dire que je vois pas de différence. Si ce n'est que aux États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance sur le fait que la personne constate qu'il y a un potentiel discrimination, même light, elle va être capable de te le dire beaucoup plus vite. Donc en fait, ça va être la prise de conscience va être plus rapide dans une société, une entreprise américaine que
c'est aussi
qu'en
beaucoup
France.
Plus judiciarisé par ailleurs. Donc
oui. Et puis ça t'a même à voir ta façon de. Alors après, on peut en rigoler. Comme à Bryant Park, par exemple, à New York, là où il y a tous les VC et les banques d'affaires et les avocats, t'as des food trucks. Des camions à pizza, sauf que c'est pas des pizzas, c'est des avocats qui t'attendent et qui disent votre patron vous a mal parlé aujourd'hui, venez on l'attaque, voilà. Donc c'est vrai que ça va.
Je vais prendre avec un supplément fromage. juste avant qu'on passe à la seconde partie de notre échange, Erwan, c'est le premier 40 nuances de Next qu'on fait depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Est-ce que l'un de vous deux, à commencer par notre invité, m'a envie de réagir à ça ?
Moi, mon regard, c'est plus globalement, on voit que tous les médias, et si on considère que Twitter est un média, que tous les médias appartiennent à des milliardaires, donc c'est une préoccupation sur le modèle économique, hein. Zavignel possède le monde. Enfin, c'était vrai à l'époque de Lagardère, Rupert Murdoch, etc.
Et donc, mais je ne suis pas sûr que Xavier Niel vienne chercher de quel sujet on parle, qui a le droit de parler ou pas.
Sans doute pas, sans doute pas. Mais bon, Bernard Arnault, enfin voilà, et, donc, et tous les. C'est vrai, hein, de Jeff Bezos. Enfin bon, donc il y a cette envie de posséder des médias. Et dans Twitter, bah, y a cette dimension qui est finalement quand même un média, hein, malgré tout, c'est un média de médias ou un relais, etc. Et donc, il y a quand même toujours un petit peu quelque chose d'inquiétant de la volonté des milliardaires à contrôler l'information. Et après, sur ce qu'il a, pour moi, sur ce qui, après le fait de faire payer, enfin, le, comment est-ce qu'on appelle
le
ça?
Modèle éco,
les 8 euros par mois pour faire identifier
l'influence.
C'est pas l'influence, mais c'est aussi
la certification.
Le terme, merci. Ça, dans le fond, ça, tout le monde s'est élevé contre ça, mais pourquoi
c'est
pas
enfin,
c'est pragmatique de trouver un modèle économique. Bon, après, une question du prix, mais finalement, ça peut, on peut vouloir se faire certifier, même si on n'est pas connu. Enfin, c'est d'une certaine manière, donc, enfin, ou moins connu. Et donc, mais c'est plus une question de voilà, qui contrôle l'information aujourd'hui dans le monde. C'est soit en Chine, c'est très clair. Et finalement, dans le monde occidental, c'est pas vraiment une démocratie ou une liberté.
Olivier a complètement raison. Aujourd'hui, de tout temps, en fait, de Rupert Murdoch à maintenant, c'était les magnats, les milliardaires qui ont détenu, en fait, des grands organes de communication. Il y a une grosse différence de l'époque de Murdoch à maintenant. C'est que c'est des médias qui sont, qui font des chambres d'écho. Donc, les réseaux sociaux, c'est des chambres d'écho, où tu ne maîtrises pas l'éditorial. Parce que c'est les gens qui le postent, tu maîtrises la modération. Donc la question, c'est de voir la modération.
Et pas de directeur de publication.
Voilà. Donc, et en vrai, tu me posais un peu la crainte que j'ai sur le monde qui évolue. Eh ben, on en est là, en fait. C'est-à-dire que tu as deux pôles qui vont se polariser. Donc, tu as ceux qui vont fonder leur analyse sur la croyance, ceux qui vont fonder leur analyse sur la connaissance. Dans quelle mesure tu laisses parler des gens, tu vois, on peut prendre le vaccin sur le Covid, quoi. Dans quelle mesure tu laisses parler des gens qui disent des aberrations, sur Twitter ou même sur le plateau de BFM, hein, quand ça va arriver. Ouais, mais il a un avis différent. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est des conneries. Donc, on va peut-être le faire taire, parce que c'est ce qu'il dit, c'est factuellement faux. Pourquoi on va continuer à faire ça? Et en vrai, tu as cette polarisation sur les réseaux sociaux qui est beaucoup plus large, en fait. C'est la polarisation dans le monde. Regarde, Trump, il veut se représenter pour les prochains. Donc là, il mid-term, on ne sait pas comment ça va tourner. Mais on va le savoir vite. Hein.
Oui. Et puis, enfin, en l'occurrence, je pense quand on diffusera, ouais, ce sera passé.
Voilà, mais bon, t'as Trump, est-ce qu'il va être réélu ou pas? Enfin, en tout cas, lui veut se réélire. Et en fait, Trump, c'est la promotion absolue de la croyance, pas du tout de la connaissance. Et c'est un grand péril pour la société future. Et comment tu le gères? Par de la modération Twitter? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que si modération devait y avoir, qu'on se focalise plutôt sur la connaissance que sur la croyance.
Écoute, bon, je vous renvoie. J'ai un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Le goût du vrai. Je ne sais pas si vous voyez qui est Étienne Klein, qui est aussi chroniqueur sur Radio France, mais qui est aussi un philosophe épistémologue, enfin, qui travaille au CEA et qui a notamment écrit sur la différence entre vrai et véridique. Par exemple, pour ou contre le vaccin, pour ou contre le nucléaire, et la capacité à faire passer une information, donc à travers les réseaux sociaux notamment, sur les quelques critères qui font qu'on finit par y croire. Est-ce que c'est autoconfirmatoire? Quelle est la puissance qui l'exprime? Si c'est un homme politique, Trump, avec une cravate et qui dit qu'il faut boire de l'eau de Javel.
Et une blouse blanche,
par exemple,
ou pas,
contre
bien
le COVID,
sûr.
Voilà. Et la blouse blanche, effectivement, avec le professeur Raoult. Hein, aujourd'hui, j'habite à Marseille. Et voilà, tous les Marseillais disaient que les Parisiens étaient des gros cons de ne pas croire Raoult. Et même encore maintenant, c'est compliqué de leur faire comprendre qu'ils disaient vraiment n'importe quoi pour plein de raisons. Et donc cette question de la véracité et puis du coup de l'influence des algorithmes, parce que comme dans le monde des algorithmes aussi, qui font qu'à un moment donné, ben, même si c'est pas des producteurs de contenu, c'est plus des robinets, les Twitter, etc., ben, l'ajustement fait qu'il y a quand même une coloration du contenu qui peut être plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins tiède à travers le robinet Twitter, quoi.
Eh bien, sans transition, je vous propose de conclure cette première partie et de s'intéresser à l'homme derrière Cybel Angels dans cette seconde partie.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.